lecture et relecture. La chronique de Jacques Rigaud sur Canal Académie.
J'ai une raison personnelle de vous parler de deux livres, et pas d'un seul, deux livres parus en 2008, qui sont très différents par leur genre, par leur contenu, et leurs auteurs sont des auteurs jeunes, relativement peu connus, mais je dois dire fort prometteurs. Il s'agit du « Rêve de Machiavel » de Christophe Bataille, paru chez Grasset, et de « Léonard et Machiavel » paru chez Verdier. Si je vous en parle, c'est que, eux comme moi, un an plus tôt, nous avons écrit des livres dont le personnage central est Machiavel. Dans mon livre qui s'appelait « Le prince au miroir des médias », paru chez Arléa en 2007 et dont le sous-titre est « Machiavel 1513-2007 ». J'avais été frappé de l'étonnante postérité et de la constante actualité de Machiavel. Voilà un auteur dont on peut penser qu'il est aussi éloigné que possible de nous, et pourtant on ne cesse de parler de Machiavel. Édouard Balladur a écrit d'ailleurs, peu avant, un livre sur Machiavel. Quand on relit Le Prince ou les discours sur la première décade de Tite-Live, on est frappé de ce que dit Machiavel sur la politique, sur le pouvoir, sur les hommes. Vaut pour toutes les époques, ce qui est d'ailleurs le propre des classiques. Et il y a une étonnante fortune de Machiavel. Machiavélique, machiavélisme sont des termes qu'on emploie dans le langage courant, dans l'actualité. Il y a une chose qui m'a toujours beaucoup frappé. Il est fréquent qu'un nom propre donne lieu à un adjectif. On dit d'une situation qu'elle est balzacienne. On parle de la poésie shakespearienne, une situation moliéresque. Mais ce sont des références objectives. Même dire de quelqu'un qu'il est marxiste ou qu'il est freudien, ça n'est pas une injure, c'est une constatation où s'est rattaché quelqu'un à une postérité, à une œuvre, etc. Machiavélique, c'est tout à fait différent. C'est, sinon une injure, du moins un jugement critique. Et je ne connais qu'un autre nom propre auquel s'attache de telles références un peu répulsives, c'est sadique, qui lui aussi est un mot qui ne fleure pas très bon. Mais ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit dans les livres dont je vais parler, même si, dans son livre, Patrick Boucheron parle assez précisément de l'œuvre de Machiavel et note à juste titre qu'il est le fondateur de notre raison politique. Je vais même plus loin, je pense qu'il est le fondateur de la science politique. C'est lui qui, le premier, à parler du pouvoir non pas dans l'optique du sacré, mais comme une réalité terrestre, réaliste, matérielle, et pas du tout comme quelque chose qui proviendrait de Dieu. Il a été vraiment le fondateur de la science politique. Alors, les deux livres dont je vais parler sont très différents, inclassables, superbement écrits, dans des styles très différents, et qui nous plongent dans cette Italie du début du XVIe siècle, qui paraît à des années-lumière de notre temps, de notre Europe, et cependant nous est étonnamment proche à plus d'un titre. D'abord parce que, maintenant, comme au début du XVIe siècle, tout change, tout bouge, parce que des certitudes anciennes sont bousculées, parce que la raison tente de se frayer un chemin entre les peurs, les violences, les crises, et que l'humanisme, dont on se gargarise, est toujours à réinventer. Alors venons-en à ces deux livres. Je commence par « Le rêve de Machiavel ». C'est le septième livre de Christophe Bataille, qui est né en 1971, donc c'est un auteur jeune. Il avait publié à 22 ans chez Arléa, en 93, un premier roman qui avait été remarqué et dont le titre est « Anam ». C'est un roman, ça porte d'ailleurs ce titre, une fiction qui part de quelques lignes de la chronique de la peste de 1523 à Florence et quelques lignes que Michelet avait relevées, où Machiavel parlait d'un rêve d'une femme pâle et affligée, couverte d'habits de deuil et étendue sur la terre. Et à partir de là, Michelet évoquait Machiavel et sa vie. Christophe Bataille est parti de là, cette peste à Florence, en 1527. Il semble, je dis bien il semble, parce que les historiens qui ont écrit des biographies de Machiavel sont très discrets sur ce sujet ou n'en parlent pas. Enfin, il semble que Machiavel, comme beaucoup de Florentins, a fui la peste. Il en réchappera. L'auteur dit qu'il se réfugie en Savoie. Je n'ai trouvé nulle trace de ce séjour en Savoie. Ce que je sais, c'est qu'il est mort en 1527 à Florence, chez lui, dans sa maison d'Oltrarno. Mais tout le livre est, à partir de faits à peu près avérés, le fruit de l'imagination de Christophe Bataille. Cette fuite devant la peste de Machiavel, portant avec lui une dague, une poignée de diamants et une fiasque de vinaigre pour se laver, car on ne pouvait pas se servir de l'eau qui était par définition polluée, le voilà parti. La peste est partout en Toscane. Machiavel, fuyant les uns, se heurtant aux autres, poursuit une errance hallucinée, jusqu'à ce qu'il arrive dans une ville sans nom, il n'en donne pas le nom, exempt de la peste jusque-là, mais qui va bientôt être frappé. C'est là que Machiavel va rester quelque temps. On ne sait, dans le récit, ce qui relève du délire de Machiavel, ou de ce qui lui arrive en effet, la vérité est que tout est inventé. Il n'y a aucune trace, aucune référence historique. C'est Machiavel, le grand Machiavel, plongé dans le fléau qu'est la peste. Et tout au long de ces pages, on va voir Machiavel se heurter à des fantômes, à des errants, pas de parole, pas de conversation, la lutte pour la vie, des maisons abandonnées dans lesquelles il trouve refuge, il cherche à se nourrir comme il peut. C'est une chronique de la peur, de l'épouvante, du néant, et ceci dans un style, je le répète, éblouissant. L'auteur aurait pu prendre n'importe qui, lui donner un nom et un prénom, et le faire parcourir cette ville épouvantée et désertée. Mais il a choisi Machiavel, comme il aurait pu prendre quelqu'un, mais c'est Machiavel. Et ce qui est frappant, c'est que dans cette épouvante, il n'y a plus de Renaissance, il n'y a plus de livres, il n'y a plus de Dieu. Tout est, en quelque sorte, une espèce de cauchemar. Et puis, à un moment donné, il va rencontrer une jeune femme qui ressemble, comme par hasard, à celle du rêve évoqué par Machiavel lui-même, qu'il va sauver du bûcher, qu'il va aimer, avec qui il va avoir une relation physique, il la possédera avant qu'elle ne meure et qu'il la brûle pour s'enfuir à nouveau. Alors c'est là qu'il invente ce séjour en Savoie qui me paraît controuvé par les biographies, mais Machiavel mourra à la fin du livre. Bernard Pivot, qui en a fait la critique dans le journal du dimanche, disait « Il donne de la beauté à l'horreur ». Et c'est vrai, ce livre qui est dur, dans son écriture, dans son récit, est d'une réelle beauté. Tout est inventé, je le répète, il n'y a que des silhouettes, des rencontres sauvages, la peur partout, mais vous avez au centre ce personnage dont on ne parle pas des écrits, de l'histoire, simplement il semble connu, mais sa formidable présence donne à ce cauchemar inhumain quelque chose qui est finalement très humain. C'est un livre dont on ne sort pas indemne, parce qu'encore une fois, si ces peurs et cette épidémie atroce est très loin de nous, on y retrouve tout ce qui peut rendre notre relation aux autres dure, parfois sauvage, souvent énigmatique. C'est l'homme devant son destin et devant la mort. L'autre livre, celui de Patrick Boucheron, est aussi différent que possible. Et je m'étonne qu'aucun critique n'ait rapproché les deux livres, alors du coup, je me livre à cet exercice. On ne peut pas imaginer de livre plus différent. Ici, tout est vrai, minutieusement répertorié et référencié. Et il ne se passe rien. Écrire un livre de 200 et quelques pages, un livre où il ne se passe rien, c'est aussi un étrange défi. Il se passe rien, mais quel voyage ! Et quelle époque ! Il y a trois personnages dans ce livre. Niccolò Machiavelli, c'est Machiavel. Léonard, c'est Léonard de Vinci. Et un troisième personnage qui joue un rôle important, qui est César Borgia. Patrick Boucheron est historien, il enseigne à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste de l'Italie du 15e et du 16e siècle. Son livre se situe très précisément entre 1502 et 1504. Machiavel, je le rappelle, est mort en 1527 et il a écrit Le Prince en 1513. Léonard de Vinci, à cette époque, a 50 ans. Machiavel a 33 ans. L'un est illustre, l'autre est encore obscur, fonctionnaire à Florence, et il est prouvé qu'ils se sont retrouvés dans le même lieu ou dans les mêmes lieux par trois fois entre 1502 et 1504. C'est prouvé, et Patrick Boucheron multiplie les références qui prouvent qu'ils se sont retrouvés. Personne ne sait au monde s'ils se sont vus, croisés, s'ils se sont entretenus. Et Patrick Boucheron a l'honnêteté de le dire et de le répéter. Donc nous n'avons aucune trace de quelque contact que ce soit entre ces deux hommes. Mais ça va donner un livre de 150 pages absolument fascinant. Léonard de Vinci, il est illustre. Il a quitté Milan fin 1499, après la défaite de Ludovico Sforza, dit le mort, duc de Milan, qui avait été battu à plate couture par Louis XII et par son allié César Borgia. César Borgia conquiert une bonne partie de la Toscane et prend, après un siège, la ville d'Urbino. Léonard de Vinci, qui a toujours besoin d'un mécène, se met pour le coup à son service. Et il est convoqué à Urbino par César Borgia. Il y arrive en juin 1502, et au même moment, nous savons que Machiavel est à Urbino, chez César Borgia, envoyé par les seigneurs de Florence pour connaître les intentions du dit César Borgia et, au juste, pour savoir à quelle sauce César Borgia veut manger Florence. Pendant quelques mois, jusqu'en février 1503, Léonard et Machiavel seront donc ensemble à la cour de Borgia. Ils se retrouveront en juillet 1503 près de Pise, ennemi mortel de Florence. Les Florentins avaient l'idée de détourner le cours de l'Arno pour assécher Pise, un immense projet de travaux publics, confié à l'ingénieur qui était aussi Léonard de Vinci. Et ils vont se retrouver au printemps 1504 à Florence, où Léonard de Vinci a reçu la commande pour le palais de la Seigneurie d'une grande fresque sur la bataille d'Anghieri. Rien ne permet de penser que Léonard et Machiavel auront d'autres rencontres. Vinci mourra en 1519, au Clos Lucé, après trois ans de séjour en Touraine, invité par François Ier, et Machiavel, comme je l'ai déjà dit, mourra en 1527, étant revenu à Florence en 1519. Il n'y a aucune preuve, aucune trace, je le répète, d'une rencontre entre Léonard et Machiavel pendant les trois années où ils se sont de fait côtoyés. Il n'y a pas un témoignage, il n'y a pas une correspondance. Machiavel ne cite jamais Léonard. Léonard ne cite jamais Machiavel. La seule trace tangible, c'est que le nom de Machiavel figure comme témoin de la commande faite à Léonard de Vinci de la bataille d'Anghera le 4 mai 1504. Donc voyez combien les preuves historiques de cette cohabitation, de cette coexistence, sont ténues, une seule en réalité. On peut seulement supposer ou rêver que ces deux génies se sont vus, se sont rencontrés, ont parlé. Mais nous n'en avons, je le répète, aucune espèce de... Et c'est là, et c'est pourquoi je parle de ce livre, c'est là qu'est la puissance de la littérature. Captiver un public sur un non-événement, sur des rencontres qui n'ont pas eu lieu et qui se sont peut-être produites entre deux hommes de génie qui peut-être n'avaient rien à se dire et qui ne se sont sans doute rien dit. Je lisais dans une des critiques, Patrick Boucheron interroge le silence. Il se garde bien d'inventer quoi que ce soit, alors ce serait évidemment facile d'imaginer, d'affirmer qu'ils se sont vus et d'imaginer leur dialogue entre ces deux hommes qui sont des inventeurs de la modernité. Léonard de Vinci, génie universel, à la fois ingénieur, technicien, mathématicien, peintre, sculpteur, et Machiavel, qui a écrit des pièces de théâtre, dont la Mandragore qui se laisse encore voir ou jouer, mais qui avait un sens profond de la modernité, etc., on peut imaginer des quantités de dialogue. Patrick Boucheron s'en garde bien de leur prêter la moindre phase. Mais les multiples références historiques et livresques qui sont dans son livre ne sont là que pour nous persuader avec insistance que l'on ne sait rien de leur relation éventuelle. Et cependant, c'est un livre passionnant, pas de bavardage, mais des portraits parallèles de ces deux hommes, de leurs itinéraires, une chronique de leur voyage, de leur mission, des problèmes et des énigmes que leur condition d'artiste protégé, c'est le cas de Léonard, ou de commis aux ordres, c'est Machiavel, les ont conduits. Ils se sont affrontés dans une Italie morcelée, batailleuse, envahie, dont on nous livre dans ce livre un portrait absolument saisissant. Ce qui est frappant, c'est qu'à l'époque évoquée, donc le tout début du XVIe siècle, l'œuvre de Léonard sur le plan artistique et scientifique est à peu près achevée, celle de Machiavel à peine amorcée. Mais l'auteur parvient à en dire l'essentiel. Et là aussi, une fort belle écriture que ne parviennent pas à alourdir les nombreuses références très universitaires que vous avez dans ce livre. Alors on sort de ces deux livres avec des flots d'images dans la tête. Tout a disparu de cette époque, sauf des monuments, des œuvres impérissables, des tableaux, et pour Léonard, des plans, des dessins, des livres. Tout a disparu sauf des présences humaines d'une très grande force que le talent des écrivains, leur connaissance de ce temps révolu, suffisent à ressusciter pour notre bonheur de lecture. Vraiment, vive la littérature!